Bonjour les enfants, comment ça va?
Bonjour
Jean-Louis. Il fait la cuisine de mon père. Comme c'est mon père qui m'a appris à peu près tout ce que je sais.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants.
J'ai l'impression que vous êtes bien attelé ici. Hein?
Alors, mon Dieu, il a raison.
Laurent Mariotte.
Ah, de belles voix. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, vous le savez, hein, comme tous les samedis, au menu de belles recettes, des conseils et de beaux souvenirs de table. Nous allons revenir aussi sur l'opération des bras pour nos restos que nous avons lancée ici même la semaine dernière. Nous avons créé une carte interactive pour mettre en relation les restaurateurs qui cherchent des employés et ceux qui cherchent du travail, évidemment, dans cette branche. Il y a une grande, grande pénurie de personnel. La table et la gastronomie ont aussi leur grande voix. Michel Oliver et Jean-Luc Petit-Renaud se mettent à table avec nous dans un instant. Souvenirs, souvenirs, les amis. Et pour les accueillir, je ne suis pas tout seul, vous pensez bien. Voici mes bons vivants du jour. Avec son franc-parler légendaire et son bel accent du sud-ouest, il est aussi un porte-voix du bon goût à la française. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, mais je leur arrive pas à la cheville à ces messieurs.
Oh, si vous faites beaucoup pour la gastronomie.
On a fait un des grands là quand même.
Mais ils seront avec nous dans un instant. Pour lui, les petites histoires et les grandes histoires s'écrivent à table. La preuve avec sa déclaration d'amour à Kurnonski dans un instant, c'est Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Ravi, c'est ma première avec Candebord.
Mais oui, c'est fou ça.
Fierté absolue.
C'est parce qu'ils avaient besoin de vieux là.
Bah oui.
C'est incroyable, mais je savais pas que vous étiez jamais
tous ensemble
retrouvés à cette table. Et Jonathan Lambert nous rejoint pour partager le plat du jour, un beau poisson roux nommé ad hoc, le plat du jour. Allez, ne changeons pas nos bonnes habitudes. Posez-vous la question à la maison. Je sais que vous vous faites travailler vos méninges à cette heure-ci quand on vous pose la question. Quel est votre goût de la semaine? Je vous la pose, Yves Candebord.
Alors moi, je pense que j'ai touché le Graal par rapport à une phrase qu'on dit que le plus dur, c'est faire simple. J'ai pris un poireau, je l'ai cuit vapeur, hier soir à la maison. J'ai posé dessus deux huîtres. Après, une petite ravigote, des œufs hachés, j'ai mis un peu de capre, un peu d'oignon, une huile d'olive, une petite pointe de moutarde. J'ai posé ça dessus, un petit poireau huître ravigote, et c'était merveilleux.
Bah c'est malin, il fallait y penser déjà l'association ouais. Poireau huître, moi j'ai jamais
alors,
fait.
Alors, pour vous dire la vérité, quand même, il y a Eric Fréchon qui est un de ses plats emblématiques, c'est un poireau brûlé avec huître, avec ravigote et poireau. C'était un de ses plats emblématiques. Alors, moi je l'ai fait vraiment en toute simplicité, j'ai mis 5 minutes le temps de cuire mon poireau et c'est une vraie émotion parce qu'il y a tout ce qu'on aime. Il y a cette fraîcheur, ce végétal du poireau, le iodé crémeux un peu de l'huître ouais. Et derrière l'acidité et la puissance d'une capre, d'un oignon, du petit trait de vinaigre, c'est un accord qui est d'une précision assez impressionnant.
Le grand Eric Fréchon qu'on salue et qui nous écoute, effectivement, qui est un seigneur de la gastronomie. Emmanuel Rubin, votre goût de la semaine?
Oh, c'est la saison, le goût des agrumes, orange, clémentine, mandarine, et je suis tombé sur un ouvrage qui s'appelle Zeste et Geste, paru dernièrement aux éditions Éric Bonnier, signé de Damien Blasco. Damien Blasco, c'est un agrumiculteur et l'un des princes de l'agrumiculture. On le trouve du côté de Perpignan dans les terres catalanes, et l'ouvrage est assez formidable parce que pour une fois, on n'est pas versé dans la recette et dans la cuisine, mais vraiment dans la quintessence de l'agrume. C'est à la fois un inventaire des fruits, mais aussi un manuel de jardinage. Il nous raconte carrément, vous savez, les pousses-greffes. Et puis, il a invité quelques chefs, non pas pour donner leurs recettes, mais pour raconter un peu à la manière dont vient le faire Yves, leurs émotions avec les agrumes. Alors, vous avez les émotions d'agrumes d'Anne-Sophie Pic et de tout un tas de chefs. C'est un livre assez étonnant parce que c'est pour moi à la fois un livre de botaniste, un livre de cuisine, un livre d'émotions, Zeste et Geste, Damien Blasco, un grand monsieur du l'agrume.
Eh bien, on prend, monsieur Rubin. Mon goût de la semaine, il est jurassien, figurez-vous. J'étais en reportage dans le Jura pour mon magazine Les Petits Plats et j'ai passé un moment de table que je n'oublierai pas vraiment jusqu'à la fin de mes jours. Je peux même le dire, c'était une poularde au vin jaune et au mori. J'étais, figurez-vous, au domaine de Montbourgeot. Nous sommes dans l'appellation L'Étoile, qui est une toute petite appellation. Ah oui, c'est les vins jaunes, c'est les vins du Jura, ce sont les Savaniens. La famille Doriot, César, Baptiste et la maman Nicole qui m'ont reçu. Je suis arrivé chez vous. Ils nous écoutent. Alors, je suis arrivé chez eux dans la salle à manger, une belle poularde au mori et au vin jaune. Dans la cheminée, un feu qui crépite. On a bien bu, on a bien mangé. Mais à un moment de table, mais qu'on n'oublie pas, vous savez, voilà, tout était juste. Et puis une belle salade de fruits aux agrumes de la maman, tiens, à la fin, avec du citron vert.
Bon, je pense en plus que une fois dans sa vie, il faut goûter ce plat.
Franchement, ah oui. Ça fait partie des très très grands
plats. C'est ce que je vais faire à Noël.
Très très grande association de la gastronomie française.
On est d'accord. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Charles Guyard, l'envoyé spécial d'Europe 1, s'est rendu sur le marché de Basse-Goulaine au sud-est de Nantes pour savoir ce qu'il y avait dans vos paniers. Bah oui, c'est la saison, là ça y est, on est en plein dans l'automne. Donc qu'est-ce que vous mettez dans vos paniers ?
Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous fallait de bon ce matin ?
Voilà, ce que l'on va manger, c'est souvent des panés avec tout ce qui est vapeur, donc soit les pommes de terre, les carottes, et avec un tout petit peu de viande. Nous on fait plutôt légumes accompagnés de viande.
Parfait.
La santé démarre par l'assiette, c'est ça qu'il faut privilégier.
Maintenant qu'il va faire plus froid, hein, oui, bon pot-au-feu, c'est agréable.
Moi je prends beaucoup de butternut, potiron, je prends des poires, des pommes.
Et ça va les enfants, ils mangent les légumes?
Alors oui, si on les habitue vraiment tôt, elles sont fans de brocoli et de chou-fleur déjà. Et non, en faisant découvrir ou en faisant des petits plats ludiques, ça passe bien.
Alors j'ai pris des légumes pour faire du potage, de la charcuterie pour faire une choucroute, pour se renforcer un peu et puis affronter l'hiver en pleine forme.
Bonne journée.
C'est tout pour aujourd'hui.
Bonne journée messieurs, dames, et merci de répondre au micro européen qui se balade sur tous les marchés de France. La choucroute, ça aussi cette saison.
Le samedi matin, les bons vivants sont sur Europe 1. Et c'est avec Laurent Mariotte.
Oh, mais je ne suis pas tout seul, vous allez entendre. Nous revoilà avec la bande au studio Coluche. Ce matin, on va recevoir un amoureux de la table et de la fourchette, un grand nom de la gastronomie et de la télévision. Mais avant, une question. Tiens, Emmanuel Rubin et Yves Candebord qui sont avec moi aujourd'hui. Vous regardiez les émissions de cuisine à la télévision, enfant, Yves ?
Oui, oui, bien sûr. Étant donné que de la famille, tout le monde était amoureux du bien manger, c'est des émissions qui m'ont bercé. Et sans doute, inconsciemment, c'est peut-être ces émissions-là qui m'ont amené
vous regardiez qui
à mon métier. Ben, on regardait bien sûr Michel, parce que moi, son papa...
Michel Oliver.
Voilà, Michel Oliver, son papa, moi j'étais trop jeune quand il était à la télé.
C'était la génération d'avant.
La génération de papa. Donc c'était Michel par rapport voilà, c'est à sa défense déjà du terroir et à sa façon d'apprêter l'aimer avec cette
réussite.
Et en plus, un gars du Sud-Ouest.
Emmanuel Rubin.
Je suis sur l'argent, mais je tiens à le dire.
Je regardais, parce que moi, pareil, gamin des années 70, on regardait parcimonieusement la TV. C'était le samedi, je me souviens des deux Michel, Guérard et Oliver. Et Oliver, pour un gamin, ce qui avait d'étonnant, c'est qu'il ne portait pas le tablier. Il avait un pull avec, je crois, écrit Super Chef. Et pour un gamin, on se disait, c'est cool. Donc, c'était à la fois une émission de cuisine, mais qui parlait déjà aux enfants.
Exactement.
On la considérait presque comme l'île aux enfants pour
il,
nous.
Il a emmené de la décontraction dans les émissions de cuisine. Il est avec nous aujourd'hui au Studio Coluche. Il vient de fêter ses 90 printemps. Bonjour, Michel Oliver.
Salut.
Comment ça va ?
Eh bien, heureux de vivre, toujours pas de problème.
Ben, je vois bien, vous partagez entre Paris et votre beau Luberon.
Oui, pour l'instant, oui. Plutôt à Paris pour tout l'hiver, mais Luberon au printemps, quoi.
Alors nous sommes ici au Studio Coluche, à Europe 1, une maison que vous connaissez bien.
5 ans. J'ai passé 5 ans, et je dois dire une chose, c'est que c'est les meilleures années que j'ai eues, parce que j'adore la radio, et je n'aime pas tellement que ça la télé, parce qu'à la radio t'arrives, t'es pas rasé, t'es rien, mais c'est ta voix qui compte.
Mais bien sûr.
Et tu dis, les filles t'ont dit, je suis beau, c'est ta voix qui compte. Et tu sais comment il s'appelait le patron d'Europe 1 ? Floira.
Sylvain Floira.
Un jour, il m'a dit, Michel, si je pouvais, je ferais une radio qu'avec des accents. Je te jure.
C'est vrai, on aime les accents. Mais je sais que les auditeurs aiment beaucoup vous retrouver dans cette émission, Yves Candebord.
Je suis très fier parce que les accents, quand même, importe l'accent, c'est la France.
Voilà, c'est ça.
C'est vraiment l'image de la France.
Alors, Michel Oliver, vous avez marqué des générations, 8 ans à la télévision avec 2 émissions, La vérité est au fond de la marmite, et Dis-moi ce que tu mijotes, c'était sur Antenne 2 à l'époque. Vous aviez le sens de la mise en scène, hein, comme disait Emmanuel Rubin, et de la décontraction. On va écouter un extrait, on est en 1977, vous apprenez aux téléspectateurs à faire une pomme paillasson. C'est tout simple, c'est une galette de pommes de terre, et on arrive au moment fatidique. Écoutez.
Je demande un instant de silence, s'il vous plaît.
Il l'a retourné.
Merci. Cela dit, je vais pas vous demander de faire ça à la maison, c'est pas possible.
C'est pas possible de la retourner comme une crêpe. C'est beau ça, la galette de pommes de terre qu'on appelle la cric ardéchoise, le beignet de pommes de terre en Lorraine. Vous aviez un sens vraiment de la décontraction et de la mise en scène dans vos émissions.
C'est-à-dire que chaque recette a un point qui est le point capital de la recette. Et c'est ce point capital qu'il faut toujours mettre en avant, parce que c'est lui qui dont dépend qu'on l'a réussi ou qu'on la rate. Hein.
Et qu'on donne l'envie de la refaire à la maison.
Ah mais il faut la faire à la maison. On est là pour ça. Tu te rends compte à Europe 1 tu sais comment ça s'est passé, mon arrivée à Europe 1 ?
Non, racontez-nous.
Ma camarade de jeu de l'époque était mannequin chez Courrèges, et un matin, je l'ai emmené au boulot, Et Christiane Collange, qui avait son émission Europe 1, était là. Elle passait dans la rue. « Michel, viens me raconter une recette en direct à l'antenne. » Je vais raconter une recette en direct. À la fin de ma recette, Étienne Mougeot est derrière la porte. Il me dit « Michel, dans mon bureau. » Je vais dans son bureau, il me dit « À partir de lundi, tu es tous les matins à 9h-10. » J'ai fait 5 ans comme ça.
Mais 5 ans dont les auditeurs se souviennent encore.
Heureuse époque.
Et tu sais pourquoi j'ai arrêté ? Alors, j'enregistrais une ou deux émissions par semaine, ce qui fait que un matin où j'étais pas à l'antenne, j'étais dans mon bain et j'écoute la radio et je dis mais quel est l'enfoiré qui m'imite ? Et c'était moi qui parlais. J'ai dit c'est fini.
Pourquoi ?
Parce que j'étais au bout du rouleau, tu vois, j'étais en train de faire de la parodie de moi-même.
Ah oui, il faut pas se caricaturer.
Je suis allé voir Étienne, je lui ai dit Michel, t'es fou, t'arrêtes. Tu sais combien on recevait de lettres par jour ? Parce que c'était les lettres à l'époque.
Mais bien sûr.
On recevait par jour 1000 lettres, tous
c'est énorme,
les jours
c'est
de l'année.
Énorme. Alors, on ne peut pas parler de vous sans parler de votre papa, le grand Raymond Oliver, qui était le premier à faire des émissions de cuisine à la télévision avec Catherine Langer, Art et magie de la cuisine, hein, ça s'appelle. Patron et chef du Grand Véfour.
Hein, 14 ans.
14
il a tenu
ans.
14 ans. Et pour lui, le fait qu'on l'ait arrêté pendant les événements, ça a été vraiment terrible. Il pensait qu'il allait faire ça toute sa vie, tu vois.
La télévision.
Ah, oui. la télé, et puis on l'arrête.
Et alors, on peut parler des grands plats quand même du Grand Véfour, hein, le pigeon régnier 3, le toast...
Le pigeon du prince régnier, oui.
Ouais, le toast de crevettes Rothschild, ça vous rappelle des souvenirs,
voilà.
Tout ça.
J'en ai vendu des milliers.
Vous étiez avec lui dans son tablier, petit, à regarder autour de lui comment il cuisinait.
Non, petit, j'étais dans les
jupes de maman.
Mon grand-père.
Avec le grand-père qui était cuisinier aussi.
Qui avait été chef associé de Monsieur Escoffier au Savoy à Londres.
Que ça.
Autrement dit, qui n'était pas un mauvais, hein.
C'est incroyable. Et Jamie Oliver, le chef anglais, c'est pas de votre famille, lui.
Ah, je le renie complètement.
Ah donc, il y a un doute.
On ne sait pas, il y a peut-être un doute, mais c'est rigolo quand même de voir
il est blond. Comment tu veux qu'on fasse un blond dans ma famille ?
Non, de la Sud-Ouest, c'est reconnu, on est tous à les cheveux
blancs. C'est blond, il n'est pas du Sud-Ouest. Hein.
Non. C'est vrai que le Grand Véfour, il faut qu'on en parle un petit peu. Il accueillait le gratin Emmanuel Rubin de toute la gastronomie et puis de toute la société à l'époque à Paris.
Une des grandes légendes de la restauration parisienne, Palais Royal, Paris, le Grand Véfour, le Livre d'Or. Comment vous dire, faut pas le laisser dormir, faut le réveiller, et on va le réveiller. Jean Giraudoux, Emmanuel Berle, Colette, Sacha Guitry, Louis Aragon, Elsa Triolet, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, tiens, Marcel Pagnol, Jean Genet, André Malraux, Juliette Gréco, Louis Jouvet, on en passe, on en oublie sauf un certain Jean Cocteau, et je crois que vous l'avez croisé, monsieur Oliver, Michel.
Plus que croisé.
Alors, racontez.
La cuisine est un jeu d'enfant avec une préface de Cocteau et avec vos dessins.
Oui.
Un best-seller mondial, 3 millions d'exemplaires dans le monde.
Oh ouais.
On le trouve encore ou pas, ce livre?
Ben, il va être Plan m'a jeté, comme ça, brusquement. Ils ont dit, je me suis rendu compte que j'étais plus chez Plan quand j'ai voulu acheter mes bouquins. On m'a dit, mais monsieur Oliver, vous n'êtes plus dans...
Bon, ok. Il faut le refaire.
Et c'est Flammarion qui vient de racheter les droits.
Oh, bien meilleure maison d'édition.
Bravo, Flammarion.
C'est la mienne.
Et je ressors, en avril.
En avril? Ah,
voilà.
Ça, c'est
et
une
j'ai
info.
J'ai fait 5 recettes de plus. Je me suis remis au dessin et j'ai fait 5 recettes de plus.
Voilà une belle info. La cuisine est un jeu d'enfant va ressortir en avril 2023 et le livre aura, il était en 63, hein, le premier.
Ils ont doublé les livres. C'est
ce
qu'il va y avoir dans le même livre, la cuisine et la pâtisserie.
C'est beau.
Non, mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on racontait la manière dont il a un peu déringardisé la cuisine à l'écran, mais surtout, à l'époque, faire un livre pour enfants, de la part d'un chef, quand même d'une grand nom de la famille, c'est d'une modernité folle. Ça.
Restez avec nous, Michel Oliver. Jean-Luc Petit-Renaud va nous rejoindre dans un instant, mais avant, on joue avec nos bruits de cuisine. Vous pouvez gagner une cave à vin d'une capacité de 18 bouteilles de la marque française Climadif, une très belle marque made in France. Écoutons le bruit de cuisine. Alors, de quoi s'agit-il ? Europe1.fr ou le 3921. On revient dans un instant avec nos tontons flingueurs de la fourchette, Michel Oliver et Jean-Luc Petit-Renaud. A tout de suite. Merci.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Ah, ils sont nombreux les bons vivants ce samedi matin, je peux vous le dire. Merci de votre fidélité, vous êtes d'ailleurs nombreux à nous écouter, ça nous fait plaisir. Nous voilà de retour à cette belle table avec deux grandes voix d'Europe 1, deux tontons flingueurs de la fourchette, deux tontons mangeurs. À ma gauche aussi le Coluche, Michel Oliver. Et je sais pas si vous êtes déjà rencontrés, mais je crois que oui quand même. De l'autre côté, Jean-Luc Petit-Renaud. Bonjour Jean-Luc.
Et bonjour.
Jean-Luc. Comment ça va ?
Une impression de déjà vécu, comme on dit.
C'est ça,
ça. C'est ça, exactement.
Vous connaissez les deux gaillards, là?
Ah oui, bien entendu. Ah si, si. Et moi, je connais toutes les légendes. Donc,
c'est
bon. Michel Olivier est une légende.
Vous en faites partie. On vous retrouve régulièrement à cette table le samedi avec votre bon
avec
goût de l'époque.
Plaisir, oui.
Jean-Luc Petit-Renaud, chroniqueur culinaire, croqueur d'adresse en région. Vous faites résonner, je le disais, votre goût de l'époque ici tous les samedis, pratiquement. J'ai compté, Jean-Luc, 17 ans d'escapades et de cartes postales gourmandes à travers le pays sur France 5, de 2000 à 2017. Ça en fait des adresses et puis des belles tablées, hein.
Oui, et ça en fait du chemin aussi. À cheval, à bicyclette, enfin bref.
Avec le taxi.
On parcourt le pays.
Je veux dire un truc sur Jean-Luc. J'étais pas connu du tout. J'ai travaillé au Véfour et tout. Et il était à un salon et tout. Et il avait le micro. Et brusquement, il me voit arriver. Et voilà Michel Olivier. Comment il savait que j'étais Michel Olivier? Il le savait. Il le savait.
C'est comme Michel Drucker, oui. Il a des fiches sur tout le monde.
Oui, exactement, mais on mène les poches. Enquêtes. Hein, c'est sûr.
Voilà. Non, mais c'est vrai que vous avez été tous les deux à l'avant-garde pour déringardiser notre terroir. C'est ce que disait Emmanuel Rubin tout à l'heure.
Complètement, d'ailleurs. On ne sent pas à l'époque. On aime juste l'émission parce qu'elle est vivante, elle est bien. Mais aujourd'hui, sans glisser dans la nostalgie, c'est vrai, à l'instant où il a pris la parole dans le micro, je dis, oh, cette voix. Voilà. Elle nous parle. Et c'est vrai que la manière de filmer les escapades avec cette route, avec une vraie technique, avec une vraie mise en scène, avec des chefs opérateurs, avec un camion, et puis avec un acteur, parce que c'est aussi un acteur. Mais la gastronomie, il faut la mettre en scène, faut la raconter, faut parfois aussi, vous savez, les chefs, ils sont parfois mutiques et un peu taiseux. S'il n'y a pas quelqu'un pour les faire parler, ça donne pas d'écho. Et ça, vous aviez ce talent. C'est aujourd'hui que je m'en aperçois. Peut-être qu'à l'époque, je la regardais avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, il y a en plus une manière de dire ils ont fait bouger le
schmilblick. Et un vrai travail. Mais on l'écoute, tiens, Jean-Luc Petit-Renaud dans ses escapades.
Bonjour les enfants, comment ça va?
Bonjour Jean-Luc.
J'ai l'impression que vous êtes bien attelés ici. Hein. Alors là, il y a des vignerons, hein, c'est ça? C'est une table de vignerons, de pâtissiers, de boulangers, de maraîchers et compagnie. Parce que vous savez que tous ces petits métiers mis bout à bout, comme ça, les uns après les autres, ça fait la joie d'un pays qui s'appelle la France.
Eh oui, le joli goût de la France. Vous êtes d'accord avec Saïf Kandebord?
Moi, je suis plus que d'accord. C'est vrai que tout le monde connaît Jean-Luc par ses cartes postales et ses escapades. Mais moi, je vais aller plus loin parce que voilà, Jean-Luc, certes, c'est voilà, ce personnage médiatique, mais ça allait plus loin, ce rapport qu'il avait avec les chefs et surtout les jeunes chefs. Alors moi, je vais raconter une petite anecdote. Mon premier restaurant, quand je l'ai choisi, c'est Jean-Luc Petit-Renaud de personne qui est venu avec moi voir le lieu. Et me conseiller, me dire qu'en deux, voilà. La première fois, le premier restaurant, il m'a dit non, le fais pas. Le deuxième, il m'a dit celui-là, il est pour toi.
La fameuse régalade du 14e.
La fameuse régalade
du 14e. Donc, il avait du nez.
Non, mais c'était ce rapport qu'on a, que Jean-Luc et les journalistes de l'époque aussi avaient avec les cuisiniers. C'est-à-dire, ils étaient très proches de nous et aussi des très bons conseilleurs. Ils savaient nous guider, ils savaient nous amener l'âme supplémentaire des fois que nous n'avions pas.
Vous êtes dans l'accompagnement, Jean-Luc?
Oui, mais parce qu'on est quand même des individus, on fait quand même autre chose que compter les petits pois dans une assiette. C'est-à-dire que on est des accompagnants, on est des conseillers, on est les restaurateurs, les cuisiniers sont tellement contents quand ils nous voient arriver parce que si vous n'êtes pas un agressif et que vous êtes un aidant, eh bien il a envie de montrer tout ce qu'il sait faire, le cuisinier, parce que c'est un cœur tendre. Et si vous êtes là pour ouvrir le vôtre, votre cœur, eh bien vous allez donner des conseils, vous allez écouter, vous allez voir, vous allez dire « Peut-être qu'à ta place, je mettrai un peu plus de ceci, un peu plus de cela, un peu moins de cela. » C'est-à-dire que c'est un métier où il faut s'identifier à la maison. Et surtout, s'il y a un truc qui va pas ou qui ne va pas du tout, eh ben on prend pas tous les micros et les caméras pour aller l'annoncer.
Oui, on le dit
on
à
le
côté.
Garde pour soi.
Michel Olivier, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération là où effectivement avec des émissions comme Top Chef, la cuisine est devenue vraiment très glamour.
Je regarde pas. Tu rigoles ou quoi? Mais c'est pas de la cuisine.
Ah si, il y a des bons chefs.
C'est un show, merde.
Ah oui, il y a des bons chefs.
Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, on va se fâcher là.
J'ai énervé. Il y a des bons chefs dans Top Chef.
Oui, mais c'est un show. C'est pas de la cuisine. La cuisine, c'est ce que fait Yves,
oui,
c'est ce que je fais moi.
Michel aussi.
On fait la cuisine. C'est-à-dire, on prend une recette et on la fait de A jusqu'à Z. Mais on ne passe pas comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un, dans mon métier, courir dans une cuisine. Là, les mecs, ils courent comme des lapins et ils se cassent la gueule. C'est pas de la cuisine, ça.
Vous auriez dû être cuisine, quoi. Franchement.
C'est vrai. vrai. Vous n'avez jamais essayé la critique.
Non, il faut leur mettre des livres. Il faut qu'ils fassent 70 mètres et ils seront meilleurs, là.
J'ai une question à vous poser à tous les deux, parce que vous en avez fait des tables, hein, de chacun de votre côté et peut-être quelques-unes ensemble. Quel est votre plus beau souvenir de table? Tiens, Jean-Luc, un grand souvenir de table que vous auriez
vécu. On n'est pas couché.
Oh, ben alors oui, ben il y en a quelques-uns quand même. Mais j'ai un grand souvenir de la table, par exemple, de Pierre Vedel, qui était un cuisinier à Paris dans le 15e arrondissement.
Qui a été mon chef pendant 10 ans.
Au bistrot de Paris.
Ben voilà, au bistrot, qui était aussi le cuisinier de Brassens. Et pour moi, mon rêve était de rencontrer celui qui faisait la tortore à Georges Brassens. Parce que je me disais, par ses quenelles, par son saucisson, par ses radis, il doit conditionner les mots de Brassens pour que l'autre arrive comme ça à faire de si belles chansons. Et donc, sa cuisine était une chanson à Pierre Vedel. Et moi, j'adorais ce bonhomme.
Votre plus beau souvenir de table, vous, Michel Oliver?
J'en ai plein, je peux pas le dire. Mais Pierre Vedel, on est né le même jour. Donc, on se téléphone tous les ans, le 2 novembre, tranquille, mimille, et on se fait des repas ensemble au moins 3 fois par an.
Est-ce que nos auditeurs constatent en vous écoutant ce samedi matin sur Europe 1, c'est que vous avez tous les deux des talents de conteur et vous êtes des artistes de théâtre, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Rubin, et vous-même, vous avez fait l'école du cirque, Jean-Luc Petit-Renaud, vous avez pris des cours chez René Simon à l'école
Absolument, absolument pas pour en faire le métier. C'est parce que j'étais extrêmement timide. Et j'avais un copain qui s'appelait Jean-Pierre Cassel et qui m'a dit, je vais t'amener chez Simon, comme ça tu seras décontracté. Et après, mais plus que décontracté d'ailleurs, tu le vois aujourd'hui.
Bon. René Simon, qui est le papa de Fabrice, animateur de la classe, qui nous écoute régulièrement, que je salue. Emmanuel Rubin.
Non mais allez écouter, c'est aussi une jolie cuisine de la langue. Vous avez entendu? Le mot tortore, c'est de l'arguche, plus personne n'emploie le mot tortore, mais qu'est-ce qu'il est beau? C'est déjà du Brassens, ça roule les airs, on a déjà un terroir en bouche. Et voilà, c'est aussi peut-être une époque qui soignait les mots. Et donc les mets.
Eh ben, vous me faites ma transition parce que je vous renvoie donc à cette information que vous avez donnée aujourd'hui à la table des bons vivants, Michel Oliver. La cuisine est un jeu d'enfant va ressortir en avril 2023 chez Flammarion. Et ça me fait une belle transition parce que Jean-Luc Petit-Renaud, il a écrit 2 beaux romans chez Flammarion. Bienvenue chez moi et puis les 4 saisons d'Émile et Marcel, vos parents. Voilà. Oui. Là, on retrouve pareil le goût d'une époque. Et comme le dit Emmanuel, c'est vrai que raconter la cuisine, raconter la gastronomie à la télévision, à la radio, ce sont d'abord des mots, en fait.
Mais oui, mais c'est une fable. Un repas, c'est une fable, c'est un conte. Si on commence pas par « il était une fois » à l'heure de l'apéritif, on va passer à côté du moment. Nous ne sommes pas là pour compter les calories, les graines, les machins, les trucs. On est là pour partager. Vous avez déjà vu cette magnifique attitude de celui qui célèbre la table et qui va aplatir la nappe comme ça. Il met ses mains à plat sur la table, un peu comme pour enlever les traces du fer à repasser. Parce qu'il prend position. Il prend
s'installe.
Il s'installe. Il veut savoir où il va pouvoir jouer. Où il va entendre ou raconter une histoire. Et c'est ça, la table.
Eh ben, merci, messieurs, d'être venus nous raconter de belles histoires. Michel,
un petit mot. Une dernière chose. Mon père avait une maxime. Il disait, les aliments sont comme les mots. Le cuisinier en est le poète.
Ah bah c'est bien dit, on prend ça. Très très bien dit, merci Michel Oliver.
Bonjour d'être venu, merci. Bravo les gars.
On applaudit nos modèles au sud des Coluches, merci messieurs.
Mais partez parce que vous avez repiqué la place. Dégagez là.
On vous retrouve évidemment sur europe1.fr. On revient dans un instant avec notre opération lancée ici la semaine dernière, des bras pour nos restos. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Et il avait raison, Emmanuel Rubin, on n'arrive plus à les déloger, ils sont toujours avec nous. Michel Oliver et Jean-Luc Petit-Renaud.
Sécurité, appelez la sécurité.
Jonathan Lambert nous rejoint dans un instant. La devise de la famille Oliver, vous ne me l'avez pas dite, Michel.
Je te la donne, si nous y voyons plus haut que nos pères, c'est parce que nous sommes montés sur leurs épaules.
Ah, la transmission, ben voilà, tout est dit.
Très beau.
Ah ben on prend ces belles phrases.
Eh bien merci des mots.
En tout cas, dans mon cas, c'est vrai, parce que mon père m'a tout appris.
Raymond Oliver, le grand Raymond Oliver, qu'on peut voir aussi dans les belles archives de l'INA avec cette fameuse recette de pâte à crêpes, où il met dans la pâte à crêpes du lait, du rhum, du pastis, de la bière. C'est plus une pâte à crêpes, c'est un cocktail.
C'est délicieux.
Et ça marche.
C'est une recette délicieuse.
Elle fonctionne, on l'a refait ici à cette émission.
Les enfants adorent.
Comme mon petit-fils, qui est chef pâtissier au palais à Biarritz, fait tout propre. pratiquement tout le temps.
Et alors vous me lancez, tiens, justement, parce que on parle de la restauration, on parle de l'hôtellerie-restauration en ce moment à cette table. La semaine dernière, nous avons lancé un appel pour que les restaurants et le personnel se retrouvent. Vous êtes au courant, il y a une grande pénurie de personnel dans la restauration, 300 000 postes à pourvoir après l'épisode du Covid. Donc nous avons mis en place ici une carte interactive avec des annonces d'emploi sur europe1.fr. On a lancé l'opération des bras pour nos restos. Donc professionnels de la restauration ou pas, vous avez été nombreux à réagir et à partager notre appel. Ça se passe sur europe1.fr. Quelques annonces d'ailleurs, hein, Emmanuel, que vous avez repérées.
Oui, la Bastide d'Elva, nous sommes à Changé, c'est dans les environs de Laval, Mayenne, et il cherche à cuisiner, le patron. Ça fait 2 mois qu'il attend. Le chef s'appelle Eric Jouanen. Ça, c'est un breton. Je sais pas ce qu'il fout à Laval. En tout cas, lui, il tente de recruter. Appelez-le, parce que pour l'instant, c'est en vain.
Yves.
Et moi, c'est à Perpignan. C'est la Galinette, le restaurant de Christophe Combe, qui cherche un chef sommelier. Alors c'est un restaurant assez exceptionnel parce que Christophe cultive 6 hectares de maraîchage. Il fait une cuisine végétale très très pointue. Donc il cherche un sommelier. J'ai envie de dire, c'est une belle maison, c'est une belle région. Les sommeliers, allez-y.
Des bras pour nos restos. Des bras pour nos restos, c'est le nom de notre opération. Et nous avons en ligne une chef que nous aimons beaucoup, qu'on vous a déjà présentée ici à cette table. C'est Alessandra Montagne, la chef de Nosso. Une très belle table, une belle cuisine contemporaine métissée dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour Alessandra.
Bonjour, bonjour à tous.
Ouais, bonjour Alexandre. Bonjour. Comment ça va? À la tête de Nosso dans le 13e arrondissement de Paris et d'une nouvelle épicerie cave à manger qui s'appelle Tempero dans le même arrondissement. Vous avez justement, Alessandra, un poste à proposer. Alors, on vous écoute.
Oui, alors chez Tempero, nous cherchons un chef de rang et à l'épicerie, nous cherchons un caviste. Donc, il y a 2 postes à pouvoir.
Deux beaux métiers.
Ouais, de beaux métiers. Et puis, effectivement, depuis le Covid, en cuisine, moi, heureusement, j'ai pas de problème. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai même des gens en attente. Mais en salle, je trouve que c'est un peu plus compliqué depuis le Covid de recruter en salle qu'en cuisine.
Un mot pour présenter le métier de chef de rang. Hein. C'est pas simplement un passeur de plats. Hein. C'est quelqu'un qui va créer une ambiance aussi dans un restaurant.
C'est ça. C'est quelqu'un qui fait le lien avec le chef sommelier, la cuisine, qui va pouvoir raconter la cuisine, qui va pouvoir présenter la personnalité du chef et ce qu'on a envie de dire aux clients. C'est ce chef de rang là qui va prendre la parole, qui connaît bien sa maison, ses produits. C'est un malabariste, hein. Il joue avec tous les autres métiers, il connaît tout, il sait où tout est rangé, le gars il est toujours de bonne humeur.
Comment vous expliquez ce manque de personnel en service par exemple, hein? C'est l'effet Covid. C'est quoi? C'est les salaires? C'est les emplois du temps? C'est les horaires?
Il y a un peu de tout, en fait. Depuis la crise sanitaire, moi, j'ai eu des retours, par exemple, des gens qui me disent, voilà, qu'ils n'étaient jamais passés du temps avec leur famille, qu'ils n'avaient jamais dîné à la maison avec leurs enfants, qu'ils n'avaient pas le temps de faire du vélo avec leurs gamins ou d'aller les chercher à l'école, et que du jour au lendemain, ils étaient là, ils ont découvert une nouvelle vie qu'ils connaissaient pas forcément, et puis ils voulaient plus laisser ça.
Et vous-même, Alessandra Montagne, chez Nosso, vous avez changé vos horaires. Pour pouvoir contenter tout le monde.
C'est ça, chez nous, on n'ouvre pas le samedi, le dimanche, et on n'ouvre pas le lundi soir et le mardi soir. Donc on fait 8 services par semaine, donc du lundi au vendredi midi, mercredi, jeudi, vendredi soir.
Un petit mot pour que nos auditeurs aient un petit avant-goût des menus et des beaux plats qu'on peut déguster chez vous, Alessandra Montagne.
Chez nous, on peut déguster en ce moment un risotto de sarrasin avec des cèpes. On a une super terrine de volaille avec de la truffe. On a de la joue de bœuf. On a des très beaux poissons d'arrivage.
On va venir réserver une table pour venir avec Michel Oliver et Jean-Luc Petit-Renaud, là, qui ont
avec
les yeux
plaisir.
Qui scintillent. Ils ont les yeux qui brillent. Merci Alessandra Montagne. Et on met évidemment vos propositions d'offres d'emploi sur europe1.fr avec cette belle carte interactive. Ça s'appelle
«
Des bras pour nos restos ». Merci Alessandra.
Merci beaucoup.
Et bonne cuisine. Bonne cuisine chez Nosso. Hein. Donc vous avez compris, vous recherchez un chef, un maître d'hôtel, un pâtissier. Je m'adresse aux restaurateurs parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Vous déposez votre annonce sur europe1.fr et vous-même vous recherchez un emploi dans la restauration. Eh bien vous consultez la carte sur europe1.fr. « Des bras pour nos restos ». C'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine, vous le savez. Ah oui, on est généreux en ce moment à la table des bons vivants. On vous offre une cave à vin de marque française Climadif. Une belle cave à vin de 18 bouteilles qui est idéale pour mettre à parfaite température de dégustation vos beaux flacons. Elle est ultra silencieuse et vous pouvez la découvrir sur climadif.com, cette jolie cave. Et nous avons Martine pour jouer avec nous au téléphone. Bonjour Martine.
Bonjour.
Comment ça va Martine?
Ça va très bien.
Qu'est-ce qu'on mange ce midi du côté de chez vous?
Du côté de chez moi, je suis à Strasbourg, mais j'ai mon mari qui vient de l'île Maurice. Donc aujourd'hui, c'est rougail.
Rougail saucisse à Strasbourg. Ah, ben voilà, une belle cuisine voyageuse. On écoute le bruit de cuisine et vous nous dites à quoi vous pensez. Voilà, on le remet une deuxième fois. Tiens, alors vous le remets un petit coup parce qu'il est court.
Alors moi, je pensais à une centrifugeuse en fin de pression.
Oh là là, c'est précis. Une centrifugeuse en fin de pression.
Oui.
Non, c'est beaucoup plus rustique que ça. Martine, on vous envoie un joli livre de la rédaction pour vous remercier de votre fidélité, en tout cas.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça fait des années qu'on l'appelle Jonathan, alors que son vrai prénom est Rodolphe, comme le titre du spectacle intime, hilarant et drôle qu'il joue actuellement en tournée à Paris en décembre. Drôle et bien élevé, d'ailleurs, il fait partie des meilleurs compagnons de table qu'on peut avoir. C'est R. Jonathan Lambert. Bonjour.
Bien élevé, ouais. C'est une bonne critique. Bonjour. Aussi. Bonjour. Un spectacle. Bonjour, ça
mais,
va.
Mais bien sûr, mais vous êtes bien élevé. Ah bon, vous dites des horreurs sur scène. Ouais. Hein, l'humour noir, l'autodérision, le sourire, mais toujours avec le sourire. Vous êtes en tournée, là, vous étiez.
Ouais. J'étais hier, avant-hier à Angers. Ce soir, je suis à Pamiers.
Dans l'Ariège.
Dans l'Ariège, absolument.
Exactement.
Et puis voilà, je tourne. J'adore la tournée. C'est justement l'occasion de. Ah non, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup.
Et
beaucoup.
Vous repérez, je sais que vous repérez vos tables d'avance dans ces cas-là.
Alors, hein. Parfois,
c'est
oui,
votre côté
mais,
Chabrol.
Ouais, exactement. Parfois, j'aime bien. Et puis, il y a aussi le catering. Vous savez, on est très gâtés, hein, les artistes dans les loges. On nous met. Alors, on peut être un peu capricieux et demander, enfin, avoir des petites exigences. Alors, bon, moi, en ce qui me concerne, c'est assez triste. Je demande toujours une banane, parce que j'ai besoin de ça avant de monter sur scène, c'est le seul truc qui est très, voilà, très digeste. Et sinon, je demande toujours des fromages locaux.
Et vous serez à l'Européen les mardis, les 6, 20 et 27 décembre.
Absolument.
À Paris.
Ouais.
Alors, Rodolphe est un spectacle très drôle, hein, dans lequel vous abordez des thèmes très personnels. Vous rendez d'ailleurs hommage à votre papa.
Bah, j'ai beaucoup aimé la formule dite par Oliver, ouais, qui était « si on voit plus haut que son père, c'est parce qu'on est monté sur ses épaules ». Je trouve ça magnifique.
Magnifique phrase. Ouais. Ouais, très belle phrase. Et ça vous parle, parce que vous rendez hommage à votre papa,
ouais,
qui a disparu juste avant le Covid,
ouais,
et vous dites heureusement parce que lui qui était un bon vivant, il n'aurait pas aimé voir plus de restaurants fermés.
C'était presque mieux comme ça. Ouais,
et
ouais,
vous portez son peignoir et ses chaussettes sur
c'est
scène,
vrai,
c'est
ouais,
ça qui est génial.
Sa robe de chambre, ouais, ses chaussettes.
Et l'humour est un bon moyen quand même pour désacraliser les moments durs et les épreuves de la vie.
Tout ce dont je parle sur scène, c'est plutôt, ouais, ce sont des choses qui sont plutôt graves, mais ça c'est l'héritage de mon père. C'était toujours de trouver la dérision, de se dire voilà, rien n'est grave, il faut toujours trouver la porte de sortie qui est amusante et qui est finalement une forme de politesse d'ailleurs.
R. Jonathan Lambert, quel est votre goût de la semaine?
Mon goût de la semaine, il est très sobre. C'est une saucisse, un hot dog précisément, au Harris Bar. C'est une adresse mythique à Paris. Et je suis sorti du ciné avec mon fils et je lui dis tiens, tu connais le Harris Bar? Il m'a dit non, ben, je t'emmène voir un des plus beau bar de Paris, hein, qui a une histoire d'ailleurs, je crois que c'est là où a été inventé le Bloody Mary, qui était le cocktail préféré de mon père et qui est aussi. D'ailleurs, on peut dîner au Bloody Mary, parce que c'est très nourrissant, c'est comme une soupe à la tomate, mais avec un peu de vodka.
Eh bien,
c'est vrai, je l'ai déjà fait. Trois Bloody Mary, on va se coucher, on est très, très, on dort très bien et on a le ventre plein.
Cinq du rue de nous.
Absolument, voilà.
Alors, gardez la parole Emmanuel Rubin justement, parce qu'on était avec deux légendes de la gastronomie contemporaine il y a un instant, avec Jean-Luc Petit-Renaud et Michel Oliver. Vous-même avez travaillé avec Jean-Pierre Coff d'ailleurs, vos tout débuts. Et Emmanuel, vous allez ressusciter un autre grand bonhomme de la table et de la gastronomie, un certain monsieur Kurnonski.
Oui, de son vrai nom Maurice Edmond Saillant, plus connu donc sous le nom de Kurnonski. Et le 12 octobre dernier, nous aurions dû célébrer le 150e anniversaire de sa naissance à Angers. Mais rien, bernique, personne pour en parler. Ce qui m'autorise à penser que ce bon vieux Kurnonski est aujourd'hui dans son purgatoire. Et c'est dommage, parce qu'il reste à jamais le seul prince élu des gastronomes.
Qu'est-ce que vous voulez dire par élu?
Eh oui, élu au sens premier du terme, plébiscité. Nous sommes exactement le 16 mai 1927. Et dans une élection très 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 organisée, 3338 cuisiniers, restaurateurs, gastronomes vont plébisciter Kurnonski comme leur chef de file. Il faut dire que depuis 1921, celui qui a été romancier, nègre littéraire, publicitaire, eh bien travaille à une véritable œuvre, une odyssée éditoriale gastronomique avec la France gastronomique. La France gastronomique, c'est 28 ouvrages publiés à l'époque pour recenser tous les gestes, toutes les recettes et toutes les adresses qui font la cuisine et les terroirs français.
Vous évoquiez également un homme de médias.
Eh oui, énorme. C'est un gastronome pratiquant, suractif. Il ne déjeune jamais. Il passe son temps à dévorer chaque nuit dans un, parfois plusieurs restaurants. Et à 7h du matin précise, il se met devant sa table d'écriture. Et alors, lui doit beaucoup de choses. Nombreuses académies culinaires, notamment l'académie des gastronomes qui existe toujours. Il est l'un des grands promoteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui les appellations d'origine contrôlée.
Ah oui, c'est vrai, c'est lui, oui.
À nos labels. Il est à l'origine du Larousse gastronomique. Et puis, en juillet 1947, il lance le premier numéro du fameux magazine Cuisine et Vins de France, l'un des précurseurs de la presse culinaire qui existe toujours et qui est l'un de vos grands concurrents, je crois.
C'est ça. Pourquoi vous le craignez ? Serait-il désormais au purgatoire ?
Eh ben, je pense qu'il y a une image réelle, une image portée dans chaque personnage. Kurnonski, c'est Hitchcock x2 avec une pipe et une moustache. Mmh. Aujourd'hui, son image, elle est un peu ringarde. Elle renvoie à l'embonpoint, à l'engoloserie. On aime les critiques, les chefs, vous savez, un peu bad boy, bonne gueule. Alors, dans les années 40, 30, 50, 60, ça va, Kurnonski, il a la bonne image. Aujourd'hui, ça va pas. C'est dommage parce qu'on le juge.
C'est pas un tatoué.
Voilà, on le juge pour son physique. Derrière, en vérité, on s'aperçoit que le personnage est assez étonnant parce qu'il il est assez finalement prophétique. C'est quelqu'un qui va parler de cuisine simple bien avant l'heure. La cuisine simple qu'évoquait Yves en tout début d'émission, c'est-à-dire une cuisine dénuée d'artifices. C'est aussi quelqu'un qui prévoit les futures dérives alimentaires et de l'alimentaire industriel, et notamment il s'en prend beaucoup à la cuisine américaine quand on voit ce que ça a donné par la suite.
Il avait raison.
Et même si on lui reproche peut-être, mais il faut se replacer dans les années 40-50, une cuisine très cocardière, très franco-centrée, il a quand même défendu ce qu'on a appelé le gastronomadisme, c'est son terme à lui, et le gastronomadisme, c'est le locavorisme avant l'heure, c'est-à-dire une cuisine ancrée et entrer dans son terroir, dans sa région. Et donc c'est un bonhomme qu'il faut relire, et en tout cas je trouve que c'est dommage qu'on le laisse comme ça un peu du côté de son purgatoire, lui qui est déjà mort une fois en tombant de sa fenêtre en 56. Donc c'est pas la peine qu'il retombe dans son purgatoire.
Mort malheureuse.
Laurent, il faut savoir une chose, une des phrases de Kurnonski m'a énormément inspiré pour la bistronomie.
Ah oui, racontez.
C'est qu'on n'allait pas au restaurant pour manger les rideaux.
C'est vrai que c'est lui qui a dit ça.
Toute la régalade a été montée sur cette phrase.
Vous avez raison, oui, on va pas pour manger les rideaux. On veut pas payer le décorum, on veut payer ce qu'il y a dans l'assiette.
Donc c'est pas si vieux
et
ça,
avoir des additions raisonnables. C'est ça que ça veut dire. Ça vous parle, Jonathan Lambert?
Ça parle parce que j'ai habité l'immeuble de Kurnonski, place Bergson, dans le 8e. Il y a une plaque.
Exactement, non,
je vous assure. Et donc j'étais. Et du coup, quand j'ai déménagé, j'ai pas barré, mais j'ai rajouté mon nom dessus.
Faut pas déconner. C'est la moindre des choses.
J'y étais aussi.
Faites gaffe, vous serez aux fenêtres. Faites attention.
Et ben restez avec nous, Jonathan Lambert. On revient dans un instant ici au studio Coluche. Ce sera juste après les titres d'Europe Midi. On a un beau plat du jour à vous faire découvrir, à vous et à vous, chers auditeurs, avec un poisson de saison, si je puis dire, avec un goût de saison.
Allez, on envoie le bar à la deux, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une tripe.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, hop, assaisonnement, hop, on enlève.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
Allez,
Laurent Mariotte.
Bon samedi, midi à table avec nous. Hein. Bienvenue si vous arrivez et merci d'être là si vous êtes des nôtres depuis 11h. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Jonathan Lambert est notre invité pour Rodolphe. C'est le titre de son spectacle en tournée actuellement. Tiens, il sera le 13 décembre à Marseille, le 7 janvier à Chartres et le 21 janvier à Deauville. De belles adresses de table, hein, toujours. Hein,
et le 7 à Bruxelles, parce que vous êtes écouté aussi en Belgique.
Absolument. Oui, on salue nos amis belges qui nous écoutent et ils sont nombreux, vous avez raison.
Je suis très content parce que j'ai des adresses là-bas. Ah. On mange très bien à Bruxelles.
Alors, vous avez de belles adresses aussi à Paris. Et mesdames, messieurs, chers auditeurs, je voudrais vous présenter à ce micro un grand actionnaire d'une grande maison ancestrale du chocolat parisienne qui s'appelle la Maison Fouquet.
Ouais.
Vous m'avez dit ça l'autre jour. Ouais. Vous avez pris des parts dans la Maison Fouquet qui est une institution des chocolats à l'ancienne, de la chocolaterie parisienne.
Ah oui. D'ailleurs, je pense même que ceux qui n'ont jamais goûté les salvateurs de chez Fouquet n'ont jamais goûté de caramel de leur vie. C'est incontournable.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces salvateurs?
Ce sont sont des caramels qui sont enrobés d'une sorte de pellicule de sucre candy, de caramel, mais qui, en fait, on le met dans la bouche, on laisse fondre cette pellicule, et là, on arrive au caramel, alors chocolat, café, il y a plein de goûts, et ils sont absolument exceptionnels. Et puis j'aime bien parce que c'est la confiserie un peu à l'ancienne. Et il faut surtout rappeler une chose, c'est que c'est l'un des rares, je crois qu'ils sont plus que trois à Paris, à avoir leur atelier dans Paris même.
Dans Paris, alors il y a des ganaches, bien entendu, il y a des pralinés. Pourquoi vous êtes retrouvé dans cette histoire? C'est l'amour du chocolat?
Ouais,
c'est,
non, mais il se
c'est
trouve...
un investissement sur l'avenir, une valeur
non,
refuge?
Non, c'est... non, c'est vraiment un...
Gourmandise.
Justement, ça, ouais, c'est ça, c'est une gourmandise, un clin d'œil aussi à mon père, parce que il se trouve que quand j'étais petit, pendant les fêtes, mon père ramenait toujours les boîtes qui sont magnifiques, très reconnaissables, les boîtes Fouquet en métal, et donc c'était synonyme de fête, enfin c'était Noël, c'était c'était un ensemble de choses. Et quand un ami s'est associé à eux, j'ai demandé si je pouvais, aussi prendre part un petit peu à l'aventure.
Et ben voilà, une belle aventure. Alors Jonathan, on vous connaît gastronome, gourmand, vous êtes déjà venu à cette table, vous avez votre ronde serviette d'ailleurs. Vous nous aviez confié la dernière fois votre amour pour les poissons gras, les anchois, les sardines. Vous aimez toujours le poisson?
Ah ouais, et ouais. Les poissons, ouais, même les poissons de pauvre comme on dit, parce que le maquereau, tout ça, la sardine, c'est pas cher. Mais
l'aigle fin est un poisson bon marché. Eh bien, on va vous présenter quelqu'un qui cuisine très bien l'aigle fin, qui s'appelle le haddock une fois qu'il est fumé. C'est Alcidia Vulbo. Bonjour Alcidia.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes la chef d'un beau restaurant qui s'appelle Bonne Aventure à Saint-Ouen, rue des Rosiers. Alors moi, c'est une adresse que j'aime beaucoup.
Ah, parce à côté
que
des puces.
C'est en plein dans les puces, Bonne Aventure.
Vous êtes en face du marché Paul Bert, donc on a un très beau resto avec une petite terrasse. C'est très agréable d'y passer. Il y a toute la clientèle des puces, très bigarrée, avec plein de gens différents, plein d'univers qui viennent au resto. C'est très vivant. On est hyper content d'être là-bas.
Vous êtes une ancienne éditrice reconvertie en cuisine et vous êtes passée d'ailleurs par les cuisines d'un chef qu'on aime beaucoup ici. Vous avez travaillé avec Grégory Marchand au Frenchie.
Exactement.
Très belle adresse.
J'étais stagiaire.
Rue du Nil. Et à Bonne Aventure, qu'est-ce que vous travaillez comme type de produit? Racontez-nous.
Nous, on va dire qu'on a une base de gastronomie française, un peu éclairée, illuminée par des touches épicées, métissées, des choses japonaises, africaines, qui viennent un peu enluminer la cuisine. Et c'est marrant que vous parliez de poisson fumé parce que dès le début de l'ouverture du restaurant, il y a 4 ans, on avait fait ce risotto d'orge perlée au pot de haddock fumé. Et du coup, quand vous m'avez invité, je me suis dit, c'est le moment de refaire cette recette, puisque c'est un peu la super recette de Bonne Aventure.
Et c'est la recette qui a lancé la belle aventure de Bonne Aventure.
Exactement.
Alors, expliquez-nous, risotto d'orge
perlée. Est-ce que ça vous plaît déjà?
C'est merveilleux. Franchement, c'est génial. Parce qu'au début, je me suis dit, oui, c'est un risotto, mais je me suis dit, le riz est bizarre.
Donc, c'est pas du riz déjà.
Et il y a de la j'imagine que vous le passez au lait, c'est ça le haddock et donc il y a ce côté crémeux et puis la petite touche d'aneth qui va bien évidemment, mais moi tous les poissons fumés ce sont des goûts, je devais être un poisson d'eau douce avant
mais on adore ça, et le haddock c'est de l'aigle fin,
c'est très rassurant,
c'est un poisson blanc qui est fumé et qui est coloré au roucou, c'est ça,
exactement, au roucou.
Qui est l'écorce d'un arbre qu'on a réduit en poudre pour colorer en fait. Parce qu'on le trouvait.
Ah, donc on n'est pas obligé de le trouver orange.
Non, l'aigle fin, vous le trouvez frais pour le cuisiner en frais, mais une fois qu'il est fumé, il est passé au roucou et il devient le haddock.
Le haddock.
C'est l'aigle fin qui donne son nom au haddock, effectivement.
C'est marrant parce que
le guémio devient la morue.
Oui, ça je savais, mais je savais pas que c'était le même poisson.
Ouais, le roucou, c'est aussi une graine qui est utilisée dans la cuisine antillaise pour colorer les bouillons, etc. C'est ce qui donne ce côté très orangé, cette richesse au bouillon. Donc ça suit l'huile de roucou, exactement.
Ça. Et je trouve que ça marche bien avec la saison, avec le froid. On aime ces saveurs fumées. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas forcément les goûts fumés parce que c'est des goûts forts qui ont du caractère, mais là, il est bien harmonieux, là. Hein.
Moi, ce que j'aime, c'est que c'est du vrai sel. Non, mais c'est vrai, les poissons fumés, c'est qu'on les sale pas parce qu'il y a quelque chose. En fait, c'est du sel parfumé et c'est ça que j'adore.
C'est de l'iode et du sel parfumé, exactement.
Moi, ce que j'aime, je suis un passionné de haddock et c'est peut-être mon poisson préféré. C'est l'utilisation du haddock. Et malheureusement, le haddock chez le particulier n'est pas très consommé parce que les gens, souvent, ont l'impression que c'est un poisson qui est délicat à cuisiner. Alors que le haddock, tout est fait. Il a son goût, il est assaisonné. Il y a bien souvent qu'à le pocher dans un peu de lait, avec très légèrement, à même pas frémissement, une pointe de terrine de laurier parfumée. Vous le sortez, vous déposez dessus en ce moment
des petits poireaux cuits vapeur, une petite vinaigrette et de suite c'est un grand.
Vous avez raison, c'est hyper facile à cuisiner le haddock.
Mais c'est un peu long, non, le moment où on le met dans le lait, non?
Non, justement, c'est
très court. Non, c'est très court.
Non, mais c'est comme pour tous les poissons, c'est vraiment, faut vraiment très très court sur la cuisson. Et d'ailleurs, on peut même le manger en carpaccio quasi cru, en fait, juste fumé.
Bien sûr, totalement.
Ou alors, on l'infuse dans du lait, mais vraiment 2-3 minutes, pas plus, pour qu'il soit juste nacré.
C'est vrai que le kilo de haddock sur un étal, on n'est pas loin des 20 euros. Mais il faut savoir que c'est 20 euros net, c'est-à-dire que vous n'avez pratiquement pas de perte, à peine la peau, et encore la peau, on peut la infuser, la récupérer. Ce qui veut dire que quand vous achetez un poisson en filet à 20 euros, il coûte réellement entier à peu près 10 euros, parce qu'on compte à peu près 50% de perte d'un poisson quand on l'achète entier. Donc, ça revient à 10 euros le kilo. Donc, c'est un poisson qui est très, très abordable.
Alcidia,
et l'idée, justement, dans cette recette, c'est de valoriser aussi la peau qui va servir à donner ce goût à la crème. Oui. Et qui, donc, l'idée, c'est que vous filetez, très simplement, vous filetez votre haddock et vous retirez la peau. Et la peau, vous la laissez infuser dans la crème, qui va ensuite servir à faire la liaison de votre risotto. Et du coup, c'est ce qui va donner le goût crémeux, fumé, voilà, qu'on aime vraiment du haddock. Et ça permet de valoriser la peau, donc de ne pas jeter la peau. Et voilà, et c'est ce qui va donner ce côté enrobant, chaleureux, vraiment parfait pour les plats d'hiver.
Alcidia Vulbeau, on retrouve donc votre cuisine à Saint-Ouen, rue des Rosiers, en plein dans les Puces. Et ce qui me plaît de vous avoir ici au studio Coluche avec Jonathan Lambert, c'est que vous faites une cuisine qui est très proche de la cuisine qu'a inventée Monsieur Condebord, qu'on appelle la bistronomie aujourd'hui. Des produits du quotidien, des produits qui ne sont pas nobles et que vous anoblissez avec une recette comme celle-ci qui rentre dans la gastronomie en fait.
Là, ce qui est vraiment intéressant avec cette recette, c'est qu'en effet, on a un rapport qualité-prix qui est vraiment top quoi. C'est-à-dire que là, c'est des recettes qui permettent moi de mettre à la carte, de ne pas être trop cher, mais après, vous pouvez aussi en faire un plat un peu plus luxueux. Il peut y avoir des Saint-Jacques par-dessus, c'est à vous de choisir.
Mais quand on va acheter un guéridon Louis XVI au puce, on peut quand même se payer un agrafant.
Non, mais attendez, moi je pense que la chose importante, c'est que on peut mettre ce qu'on veut dessus, on peut mettre du caviar si vous voulez, sauf que l'émotion, si on ferme les yeux, on mange ça, l'émotion qu'on a, c'est comme si on mangeait du caviar.
C'est
parce que l'émotion de la dégustation et du plaisir, c'est jamais dû au prix d'achat, à la valeur.
Merci Alcidia Vulbeau d'être venue au sud de Coluche.
Avec plaisir, c'est délicieux.
Nous faire goûter.
Oui, je vois vos mines réjouies. Ouais, réjouis.
Les assiettes surtout sont réjouies d'être finies.
Bonne aventure, c'est le nom de votre restaurant rue des Rosiers à Saint-Ouen. Restez avec nous, on va jouer. C'est l'heure d'accueillir une deuxième auditrice pour tenter de trouver notre bris de cuisine. Nous vous offrons une cave à vin de marque française Climadif. S'il vous plaît, 18 bouteilles peuvent rentrer dans cette cave à vin. Elle est parfaite.
Elles sont dedans.
On pourra en mettre quelques-unes dedans. Elle est parfaite pour mettre à température vos jolis flacons. Elle est ultra silencieuse. Vous pouvez aller la voir sur climadif.com. Et nous avons avec nous au téléphone Naïla. Bonjour Naïla.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Allez, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où Naïla?
Près d'Orléans, à Saint-Jean-de-Vray.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis professeur.
De quoi?
D'anglais.
Oh, d'anglais.
Et de tout.
Au revoir. Ah ben j'en ai besoin. Alors, écoutez, listening. We are going to listen the Brit cuisine.
Yes, I understand,
yes.
My friend.
Let's go.
L'accent des Vosges.
Alors, Naïla, qu'est-ce que c'est que ce Brit cuisine? Une action avec un ustensile.
Je vous le dis en anglais ou en français?
Oh yes, please!
Les deux, comme vous voulez. Allez, translatez.
Non, je suis embêtée, mais je pense, j'ai écouté plusieurs fois, je pense que c'est un casse-noix ou un casse-noisette, mais je suis pas sûre.
You win, Naïla! You win!
C'est génial!
Bravo! Oui, bravo! You win a very nice cave à vin Climadif.
Vous avez gagné une cirrhose.
Et on vous l'envoie du côté d'Orléans. Vous pourrez aller la rencontrer, to meet on the site internet climadif.com. Merci beaucoup Naïla et bravo.
Thank you very much. Thank you very much. Merci.
Vive les notes.
C'est super, je vous écoute toutes les semaines et voilà, merci beaucoup.
Eh ben ça nous fait plaisir, merci de votre fidélité, on vous embrasse Naïla.
Le samedi matin, les bons vivants sont sur Europe 1. Et c'est avec Laurent Mariotte.
Et je ne suis pas tout seul, Emmanuel Rubin, Yves Condebord avec moi aujourd'hui et Jonathan Lambert pour son spectacle Rodolphe en tournée dans toute la France. On continue à parler de poisson fumé, c'est vrai que c'est délicieux. Vous avez fait une belle découverte dans un autre restaurant parisien, vous disiez, de poisson fumé,
ouais,
Jonathan Lambert.
Absolument, c'est Mon Général et ils font des anchois fumés qui baignent dans une huile au romarin avec de la pomme verte. C'est l'acidité de la pomme verte qui casse le côté un peu gras du poisson, c'est extraordinaire.
Stéphane Reynaud, qui est venu ici déjà à cette table et qu'on aime beaucoup, un chef pareil, qui manie très bien les produits de saison.
Bah, je pense que c'est une vraie découverte. Moi, je ne connaissais pas, je suis allé il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est vraiment la continuité de la bistronomie avec la modernité qu'il faut et les intelligences d'alliance.
Là. Exactement.
C'est vrai que pomme verte, produit fumé, c'est exceptionnel. Ouais.
Oui, et mon général.
Et puis, il y a le personnage. Quoi.
Mais oui.
Voilà, il y a un auteur.
Et un aubergiste qui vous accueille, ouais, qui vous prend dans ses bras, comme vous dites si bien.
Voilà. Ils sont ça deux, hein, le tandem est assez génial. Ouais,
ouais. Alors, vous êtes aussi, on le sait moins, ça, Jonathan Lambert, en plus de la gastronomie, un grand amateur d'art contemporain.
Ah, je pensais que vous alliez dire de ménage, parce que ma vraie passion, c'est quand même l'hygiène.
Alors, parlons un peu du ménage avant de parler de l'art contemporain. Non, mais c'est vrai, il en parle énormément dans le spectacle. Ouais, il dit qu'il rêve de mourir sur scène, mais ça c'est à lui, c'est en passant la serpillière ou l'aspirateur.
Non, je dis que la plupart de mes confrères rêvent de mourir sur scène, et moi mon rêve c'est de mourir dans les bras d'une serpillière. Voilà. Et d'ailleurs je débute le spectacle, vous savez, il y a un grand roman qui débute par ces mots, aujourd'hui maman est morte, et moi c'est aujourd'hui maman est rêche, et j'explique pourquoi, c'est parce que j'ai fait la vaisselle, et du coup, j'ai tout un délire
là-dessus. Aujourd'hui maman est rêche, absolument.
Voilà. Mais je suis pas le seul, hein, vous savez, il y a beaucoup de contemporains, et même j'ai appris que Marlène Dietrich, par exemple, j'ai retrouvé une archive de Marlène Dietrich qui déclare son amour, sa passion pour les tâches ménagères, l'aspirateur et la vaisselle. Mais je vous jure, on dirait que c'est une blague.
Hitchcock aussi, hein, c'est ce que nous avait dit Jean Tellet, notre regretté Jean Tellet, qui était venu à cette table, qui nous racontait qu'Hitchcock avait une passion pour la vaisselle, comme pour effacer les crimes. Après, il disait, c'est un peu bizarre. Alors donc, amateur de ménage, amateur de gastronomie, mais aussi amateur d'art contemporain. On vous voit sur les réseaux sociaux faire des vidéos très drôles pour la galerie Perrotin. Et moi, je voudrais que vous nous parliez d'un grand homme qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelle Pierre Soulages, qui est mort à 102 ans et que vous avez très très bien connu, Jonathan Lambert. Racontez-nous un petit peu cette rencontre.
Ah oui, c'est une rencontre improbable.
Et cette passion.
Je dépose mon fils un jour à un cours et je vois Pierre Soulages. Alors, c'était facile de le remarquer parce que c'était quand même un menhir. Hein. Le gars, il mesurait plus d'un mètre 90, toujours habillé en noir, une gueule extraordinaire. Et je passe en voiture et je dis à mon fils, tiens, ça c'est Pierre Soulages, c'est un des plus grands, c'était il y a une quinzaine d'années à peu près, et je lui dis c'est vraiment un des plus grands artistes, le maître de l'abstraction, et je ressors du cours et j'attends mon fils et je vois Pierre Soulages toujours un peu comme ça perdu au milieu de la rue, et donc je vais vers lui, ce que je fais jamais d'ailleurs, et je lui dis excusez-moi, vous êtes Pierre Soulages? Oui, bah, j'aime beaucoup ce que vous faites, ça fait 10 minutes que vous êtes là, vous. Mais non, mon taxi s'est trompé, je lui dis 216 rue du Faubourg Saint-Honoré, en fait c'était 216 rue Saint-Honoré, donc j'attends un taxi. Je lui dis écoutez, si vous voulez, je vous dépose, puisque j'ai une heure à perdre, j'attends mon fils qui finit son cours. Ok, et donc je me suis retrouvé avec Pierre Soulages dans ma voiture, discuter pendant 20 minutes, une demi-heure avec lui, des différentes techniques d'estampes, parce que moi je ne m'y retrouvais pas entre la lithographie, les eaux fortes, les sérigraphies, donc adorable. Et pour me remercier, il m'a invité dans son atelier d'estampes où il m'a expliqué tout le processus, et puis voilà, une sorte d'amitié, on s'est lié, et puis on s'est vu tous les ans, j'ai été le voir à 7, et ça a été une rencontre. Et ce qu'il y a de génial, alors là on revient aussi à la cuisine, c'est que c'était quelqu'un, malgré, on va dire, l'importance, l'aura qu'il avait, qui s'intéressait toujours aux autres. Vous lui parliez de lui, mais très vite il bifurquait, il disait, mais vous, racontez-moi, alors, qu'est-ce que vous faites, machin, hein. Et dès qu'on lui parlait d'un sujet, alors le vin, ça, il avait sur les cépages, il connaissait mais mieux que tout le monde, le moindre cépage de n'importe quelle région.
Surtout le pinot noir.
Ah, joli.
Effectivement.
Mais même le whisky, c'est lui qui m'a fait découvrir des grands whisky. Enfin voilà, ça a été évidemment très, une rencontre très
belle,
inoubliable.
Très très belle rencontre. Il est midi passé, alors c'est l'heure de l'apéro pour certains. Eh bien, nous allons y passer avec vous, Yves Candebordes. Vous avez des vins de copains à nous proposer pour de bons apéros, on va dire, d'automne-hiver. Hein.
Oui, parce qu'on sort de l'été. C'est vrai que l'été, on boit facilement le rosé, qui est le grand classique de l'été, mais il faut continuer l'apéro même en hiver. Hein. Dire à tout le monde. Hein. Voilà, n'oublions pas ça, c'est important.
Là, c'est une urgence. Voilà.
Et alors, je vous ai choisi deux vins, un blanc et un rouge. C'est des grands vins. Voilà. J'aime pas dire des petits vins, ni même des vins de copains, parce que c'est des grands vins, parce que c'est fait par des vrais vignerons, voilà, qui sont pas sur des appellations très connues, mais qui mettent de la couane, comme on dit, qui mettent du cœur à l'ouvrage, et surtout avec un respect total de leur environnement, de leur terroir et de leurs clients.
Commençons par le blanc, c'est quoi?
Alors,
ça,
si je vous dis, Laurent, si je vous dis Jacquière et Altesse.
Il y a un côté royal, Altesse, mais après...
C'est exactement ça, c'est un côté royal, mais c'est les cépages. C'est les cépages de ce vin
Jacquière,
blanc.
Jacquière, je connaissais, mais Altesse.
Ouais, Altesse. C'est les cépages de ce vin blanc qui est l'un de mes grands coups de cœur. C'est la famille Finot, le domaine Finot. Ça s'appelle le Tracteur Blanc. Voilà. C'est un vin qui coûte moins de 10 euros. Il doit faire 8 et quelques. Vous allez voir, c'est un vin qui a du fruit, qui a pas d'acidité.
C'est ça, il y a zéro acide. Voilà, c'est le problème du blanc, très vite, on verra dans
l'acide. Souvent à l'apéritif, on part sur des acides qui sont un peu après astringentes, qui ne sont pas très agréables. On est sur la rondeur d'un grand vin. À l'aveugle, personne ne va le dire. Un vin de pays, du pays du Grésivaudan, au-dessus de Grenoble, sur les coteaux grenoblois.
Ben, impossible.
Et c'est léger, j'ai l'impression, en alcool.
Et 12 degrés d'alcool. Ah oui, c'est les vins parfaits, des grands vins d'apéritif. Et là, je l'ai accompagné, alors, avec une huître. C'est une huître du bassin d'Arcachon. Tout simplement. Et vous allez voir, le mariage, il est remarquable. Alors, juste une petite astuce avec l'huître. Là, je l'ai faite juste ouvrir crue. Sinon, vous l'ouvrez, vous posez un petit noix de beurre dessus. Vous la passez dans le four à 180 degrés, juste pendant 15 secondes, pour le petit choc thermique, pour la tiédir légèrement. Et vous faites, hop, l'huître. Un coup de blanc derrière, et c'est un petit accord qui est merveilleux. Le second,
c'est la cuisine à mon niveau, ça.
Voilà. le second, je vous dis, Malbec et Co.
Ça oui, Malbec, on connaît.
Voilà. C'est le Cahors.
Il y a du soleil.
Le vin du sud-ouest qui a une image toujours avec ses tanins très puissantes, assez chanteux.
Un peu castagneur.
Et là, c'est totalement l'inverse. C'est le domaine de Fabien Jouve, voilà, qui fait ça s'appelle, on l'appelle là, la cuvée, c'est le Haute Côte de Trust.
C'est nature, ça.
C'est totalement nature. Voilà, il y a ce côté un peu perlant, très léger, voilà, qui amène beaucoup de fraîcheur. Et là, on croque sur du vin. En général, le Cahors, c'est de la puissance et presque de. On se fait un peu écraser, tandis que là, on est tout en subtilité. On croque dedans, on croque dans le raisin, on croque dans le fruit, et voire de la framboise.
Mais là, on est loin du Malbec, quoi. C'est fou, quoi.
Le
cépage et gaucho des Argentins,
quoi. On est sur le fruit. Et pareil, c'est un vin qui coûte moins de 10 euros.
Au nez, on est dans la grange.
On est dans la grange, on est un peu plus puissant. Alors, pour la compagnie, moi j'ai mis en ce moment, on a les fromages de chèvre, parce qu'on n'a plus de fromage de chèvre frais, on est sur l'affiné. Je vous ai mis un cendré et un nature. Et avec le fromage, je trouve que c'est une association de saveurs qui est très agréable, parce que le vin l'accompagne, le vin se met juste à côté et relève complètement le fromage de chèvre.
Eh ben merci.
Donc, faisons l'apéro avec des vins de grandes appellations, de grands vignerons.
Arrêtons de voir petit, vous avez raison.
Avec des prix très abordables.
On vous mettra des références sur europe1.fr et c'est la même adresse pour vous abonner à la newsletter. C'est gratuit, vous recevez tous nos conseils, nos adresses et nos références le dimanche matin dans votre boîte mail. Trois questions courtes pour passer sur le grill des bons vivants avec vous, Jonathan Lambert. Quel est le goût de votre enfance?
Le gratin dauphinois avec la pointe de muscade, très important.
Très bon.
Que trouve-t-on toujours dans votre frigo?
Il y a des fromages. C'est pas de fromage, pas de frigo, quoi.
Et le mot de la fin, FIM?
Le mot de la fin, c'est vous êtes notre invité au resto. Ça, j'aime beaucoup l'entendre.
Mais je regrette toujours de ne pas avoir pris assez.
Eh bien, merci d'être venu. Vous nous avez fait rire, vous nous avez fait plaisir. On va vous voir sur scène dans Rodolphe, en tournée dans toute la France. Vous serez ce soir à Pamiers, dans l'Ariège. Et vous serez le 13 décembre à Marseille et le 7 janvier à Chartres. Et puis, en décembre, à l'Européen, à Paris. Merci, Jonathan Lambert.
Merci beaucoup.
Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou, bien entendu, à la rédaction en chef avec Anis Kerdraon et Julien Amat. Claire Dutronc à la programmation. Loïc Vimard à la réalisation.
Oui, et surtout, je suis à l'Européen à Paris, parce qu'on a cité les dates de tournée, mais je suis à l'Européen.
Tu l'as dit, Jonathan.
Mais moi, j'aime bien le redire.
Le 6, le 20 et le 27 décembre. Voilà, 6, 20, 27 décembre. Mais oui, il perd pas le Nord, Jonathan.
D'ailleurs, on parlera de fromage.
Eh ben, il y en aura.
Dans mon spectacle.
Sur un joli plateau.